Direct en jeu de Radio Insolite, direction tout droit, le beau pays de Suisse avec Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour.
En fait, je dis le beau pays de Suisse, mais je devrais dire plutôt la yacht.
Les deux.
Les deux, exact. Bon, on sait, on commence à être habitué, parce que bientôt, ça ne sera plus direct en jeu la radio Insolite, ça va être direct en jeu la radio d'Émilie Bissardon. Mais on rappelle, excuse-moi, on rappelle juste pour ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur, l'infime privilège d'écouter les deux précédents sujets, qui es-tu, que fais-tu dans la vie?
Eh bien, je suis guide conférencière et je travaille en France et en Suisse, donc en France principalement dans les pays de Savoie, et en Suisse du côté de Genève et du lac Léman.
Parfait. Bien, dis-moi, on a eu un problème dans l'édition numéro 2, et étant donné le fait qu'on devait parler d'un sujet, qu'on s'est retrouvé à parler de l'histoire de la Suisse.
Oui, on est parti un peu plus loin.
Voilà. Et là, on a un nouveau problème.
Mm-hmm.
Oui, parce que avant, en général, avant de démarrer mes interviews, j'aime bien discuter avec mon invité. Et là, j'ai un petit problème, parce qu'elle m'a parlé de deux jeunes qui ont un futur potentiel assez conséquent. Les deux jeunes s'appellent Voltaire et Rousseau. Je t'écoute.
Ils sont pas très connus, ces deux petits jeunes.
C'est vrai. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'on va encore repousser l'expo de la Haute-Se, on va encore repousser les institutions internationales. C'est pas grave. Qui est Voltaire? Alors, pour commencer, on va quand même faire les deux, mais pour commencer, qui sont ces deux jeunes hommes, Voltaire et Rousseau?
Eh bien, on les considère comme des philosophes, tous les deux, du XVIIIe siècle, donc de cette période qu'on appelle les Lumières. Et comme beaucoup, ils sont passés par Genève, enfin, plus que passés d'ailleurs pour Rousseau, puisque c'est là qu'il est né. Hein, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent, Rousseau n'est pas français, il est né à Genève.
Bah, pourtant, c'est Chambéry qui met énormément en valeur Jean-Jacques Rousseau.
Chambéry le met aussi beaucoup en valeur, Annecy un petit peu aussi, puisqu'il y est passé. Et d'ailleurs, Annecy a été assez important aussi dans sa formation. C'est entre autres à Annecy qu'il a appris la musique, par exemple. Et qu'il l'a fait vivre, donc c'est pas anodin, mais c'est un Genevois d'origine, et il est toujours resté très attaché à sa ville, malgré qu'il ait eu une relation un petit peu compliquée, on va dire, à certains moments.
D'accord. Juste une question, ces deux-là, ils datent de quand? Parce que bon, 18e, 19e, 21e siècle
18e. 18e. Alors, Rousseau, il est né en 1712 dans la Grande Rue de Genève et il est mort à Ermenonville en 1778 précisément. Et Voltaire est son contemporain.
Avec un contexte particulier, ce n'est pas encore le siècle des Lumières, je crois, si je dis.
Ben si, justement, on est en plein dans ce siècle des Lumières et c'est effectivement ce sur quoi je travaille avec mes collègues de l'association Genève Escapade en ce moment, puisqu'on est en train de mettre au point une visite pour les scolaires justement sur ces philosophes des Lumières, parce que effectivement il y a ces deux têtes de file que sont Rousseau et Voltaire, mais on a aussi à Genève pas mal d'autres gens qui sont passés. Juste à côté de Genève, il y a Coppet, où on a eu le groupe de Coppet mené par Germaine de Staël et Benjamin Constant. On a eu pas mal de rédacteurs, de ceux qui ont participé aux articles de l'encyclopédie initiée par Diderot et d'Alembert qui sont passés aussi. Donc voilà, il y a des choses à dire. Mais on est en préparation.
Oui, justement, en préparation par rapport à une demande d'enseignants. C'est original que des enseignants veulent faire ça de manière beaucoup plus concrète aujourd'hui, c'est-à-dire sur le terrain peut-être, ou avec des visites.
Oh, ça se fait encore assez régulièrement. Ce n'est pas une idée neuve, hein, si on prend... je vais t'emmener encore sur un autre chemin. Je vais parler de Rodolphe Töpfer. Je ne sais pas si c'est un nom qui parle.
Oui, il est venu prendre le petit déjeuner ce matin à la maison. C'est qui celui-là?
Genevois du 19e siècle, fils du peintre Adam Töpfer. Et c'est celui qu'on considère comme le père de la bande dessinée, en fait. Et qui est donc Genevois. Et à Genève, il avait créé une pension pour garçons. Et déjà à l'époque, il allait faire des excursions qu'il appelait le voyage en zigzag. Donc il allait explorer la Suisse comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire ses premiers croquis finalement. Donc c'est pas une idée neuve d'aller étudier sur place, et ça se fait encore. Alors bien sûr, le problème c'est qu'aujourd'hui souvent on a beaucoup de réglementations qui pèsent, ça a un coût aussi d'aller sur place bien évidemment, mais non, je pense que les enseignants ils aiment bien en général, et c'est vrai que sur Genève ça reste assez facile parce que c'est un petit canton qu'on peut se déplacer en transport public, Donc le coût est quand même limité. Et puis, bah, on a de la chance parce que l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle le DIP, le département de l'instruction publique, aide aussi pas mal à promouvoir ce genre d'activité, en finance certaines. Donc ça aide un petit peu.
Et Evelyne Hurtaud, qui fait aussi partie du réseau des guides conférenciers Grenat, la semaine dernière me disait, elle est basée à Thonon, elle me disait qu'elle avait de plus en plus de succès avec ses visites quand elle était habillée en type Belle Époque. Est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup plus, alors rien de méchant, est-ce que moi dans mon époque j'ai appris l'histoire en restant en classe, est-ce que c'est beaucoup plus concret d'aller sur le terrain et d'avoir ces visites scénarisées, je veux dire quelque part, qui me permettent de faire passer des messages d'une manière beaucoup plus forte.
Alors, bah, c'est là pour les visites scolaires, hein, on n'est pas du tout en costume, rien du tout. C'est des visites qui sont adaptées à leur niveau, mais qui sont sous leur forme encore relativement classique. Mais effectivement, moi, je pense que de voir les choses sur place, ça apporte une autre lumière, ça rend les choses concrètes, justement. Et c'est vrai que bah, c'est une réaction que j'ai souvent, par exemple, au musée de la Fondation Martin Bonnemère, où je travaille, quand j'ai ces élèves qui sont devant, je sais pas, la Bible de Gutenberg ou la partition originale d'un quintette composé par Mozart, et de se dire, bah, c'est Mozart qui l'a écrit, c'est lui, exactement, c'est comme s'il nous le tendait directement, ça prend une autre dimension, en fait. Vraiment, et là, ils réalisent un petit peu voilà, ce qu'ils ont sous les yeux à ce moment-là. Donc, oui, je pense que effectivement, d'être sur place, ça rend les choses plus concrètes, plus vivantes.
Le fait aussi d'aller chercher dans l'histoire passée, ce qui peut nous permettre d'avoir de meilleurs repères pour aujourd'hui, surtout pour demain, c'est aussi important.
Bien sûr. C'est même essentiel, je dirais, d'avoir justement ces repères historiques pour avancer.
Si je devais te demander juste une idée de chacun des deux, c'est-à-dire une idée de Voltaire, une idée de Rousseau.
Alors,
Oui, une, je sais, tu vas me répondre une, je sais pas faire.
c'est compliqué, hein, ce
Non, mais les idées principales peut-être des deux.
que tu demandes. Alors, Rousseau, la phrase qui sort tout le temps et qui est vraiment très représentative de sa pensée, qu'on a déjà abordée quand on a parlé de Frankenstein, il me semble, c'était dans le premier épisode, si je me
Oui,
souviens bien.
c'est bon. Ce sont des frères jumeaux, je crois, c'est ça.
Voilà. En fait, c'est dans son grand concept à Rousseau, c'est que l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt. Pour lui, un être humain, il va être bon par nature et c'est l'environnement dans lequel il va évoluer qui va le pervertir finalement. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, c'est très amusant. En ce moment, on a une exposition aussi à la Fondation Bonnemère sur le théâtre. Et il y a eu, justement, dans l'article sur l'encyclopédie, ça permet de raccrocher tous les bouts, sur Genève, D'Alembert avait jugé Genève une ville très intéressante parce que, comme les réformateurs avaient interdit le théâtre, au XVIIIe siècle, elle se trouvait complètement vierge de toute représentation théâtrale et pour lui c'était un champ d'expérimentation absolument idéal et c'est ce qu'il a mis en avant dans son article sur l'encyclopédie, ce qui a fait bondir Rousseau parce que alors, Rousseau n'était pas du tout contre le spectacle, hein. Lui il aimait beaucoup le spectacle vivant mais il aimait le spectacle auquel le pouvait participer en fait. Il aimait les fêtes populaires et des choses comme ça. Et pour lui le théâtre tel qu'on le représentait au XVIIIe siècle était quelque chose de réservé aux élites finalement et qui n'apportait rien de bon parce que ben, représenter des tragédies grecques par exemple ça mettait en scène de la violence des sentiments extrêmes et mauvais souvent voilà le pire de l'humanité finalement et il disait que ben, si voilà on rentrait dans le théâtre bon, sain, voilà, vierge de toutes ces pensées-là, et on ressortait avec des propos qu'on n'aurait jamais eus. Donc pour lui, c'était une perversion d'aller voir ces pièces de théâtre, ce qui est exactement l'opposé chez Voltaire, puisque lui, il a beaucoup apprécié le théâtre. D'ailleurs, ça lui a posé problème quand il était à Genève, puisqu'il devait aller à Lausanne, et puis ensuite, c'est pour ça qu'il est parti à Ferney, acheter le château de Ferney. qui a rouvert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qu'on va bientôt pouvoir revisiter, et qui où il a installé son théâtre et tout ça, lui justement il avait vraiment une toute autre vision de ce théâtre. Donc voilà, mais ils se sont posés sur plein de sujets.
Alors, c'est marrant parce que tu parles du château de Ferney et pourtant on parle toujours de la ville de Ferney-Voltaire.
Ah, à l'époque, c'était que Ferney quand il l'a acheté. C'est devenu Ferney-Voltaire par la suite.
D'accord. Comment ça se fait qu'on a l'impression qu'il soit complètement identifié franco-français? Parce que la France était j'allais dire, un vivier de ce type de personnages, de philosophes,
Alors,
de poètes.
c'est vrai que la France est souvent considérée comme le pays des Lumières. Après, il ne faut pas oublier quand même que d'autres pays ont largement contribué. Hein, si on prend Kant avec l'Allemagne,
Oui, très bien, oui.
par exemple, voilà, ça ne manque pas, hein, les philosophes en Angleterre aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup attaché à la France, je pense, avec la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, tout ça, et c'est beaucoup de choses qui se sont liées en fait, et que la postérité a assemblé finalement et a retenu comme ça. Mais puis après, je pense qu'on a souvent un travers en France aussi, c'est de considérer comme français tout ce qui se fait de bien en langue française.
C'est de la provocation là.
Un petit peu, mais on a cette tendance-là à bien aimer se attribuer ce genre de choses. Et voilà, non, Rousseau, il était genevois. Il n'était pas français.
C'est toi qui en as parlé, donc je suis obligé de relayer, j'y peux rien. Une expo sur le théâtre, mais le théâtre, c'est quoi? C'est une expo de costumes? C'est une expo où on voit les textes?
Non, alors, c'est une exposition qui s'appelle Masque et théâtre, plus précisément. Alors, je t'avoue que ça a été un petit peu compliqué de la sortir en cette période où nous sommes tous masqués.
Oh, mais, oh bah alors même en région lyonnaise hein. Et encore, je vais faire un peu d'humour hein, ça va être même très compliqué de réouvrir hein, c'est pas fini.
Voilà, donc mais en fait une exposition dans un musée, ça se prépare sur des années hein, c'est en général décidé facilement 2 3 ans hein,
Oui.
à l'avance. Donc quand l'idée de l'exposition est sortie, on était bien loin d'imaginer la situation dans laquelle on se trouverait aujourd'hui. Donc voilà, elle était prévue. Et en fait, les masques, ce sont des masques qui ont été réalisés par un créateur suisse, alors qui est né à Bâle, mais qui a fait toute sa vie quasiment à Genève, qui s'appelle Werner Straub, et qui a créé des masques assez impressionnants, des masques complets pour différentes représentations, que ce soit des tragédies et grecques comme, je sais pas, Antigone, par exemple. On a Alceste aussi, on a alors pour les comédies, La Paix d'Aristophane, par exemple. Il a fait des masques pour différentes pièces de Shakespeare. Un que j'aime beaucoup, c'est celui du père de Hamlet, par exemple, le fantôme, qui est assez magnifique. La représentation qu'il a vraiment fait connaître au grand public, c'est L'Oiseau vert, qui avait été donné à Genève. Alors, ça date d'il y a quelques années quand même, parce que c'était en 82. Mais voilà, il y a eu plein comme ça, puis il en a créé plein d'autres. Donc ce sont des masques qui sont assez impressionnants. Alors il a utilisé toutes sortes de matières, hein, que ce soit du cuir, du tissu, de la ficelle, des plumes, de la végétation, des fois de la fourrure, enfin il y a vraiment toutes sortes de choses. Et ça donne des masques assez impressionnants. Et l'idée a été d'exposer ces masques en les mettant en lien avec les textes, finalement, puisque les documents qui sont exposés proviennent tous de la collection de la Fondation Martin Bonnemère, qui est une collection assez fantastique et qui nous permet du coup d'exposer les éditions originales de toutes ces pièces. Donc c'est vraiment un joli trésor à venir observer.
D'accord. Tu parles souvent de la fondation.
Oui.
C'est quoi?
Alors, c'est un lieu qui est assez cher à mon cœur, où je travaille depuis 2009, et donc ça fait quelques années. En fait, Martin Bonnemère, c'était un Zurichois qui est né à la fin du 19e siècle, en 1899, et qui venait d'une famille plutôt aisée, qui était dans l'industrie de la soie, et qui a grandi dans une famille de collectionneurs. Ses parents, ils collectionnaient plutôt des peintures et des pièces de monnaie, et sa mère tenait des salons littéraires à Zurich, ce qui veut dire qu'il a vu défiler toutes sortes d'auteurs contemporains depuis sa plus tendre enfance. Un de ses grands amis était Paul Valéry, par exemple. Et Ben lui, quand il a commencé sa propre collection, il s'est intéressé à l'écrit parce qu'il avait comme ambition d'essayer de comprendre ce que l'esprit humain est capable de créer. Et comme on peut écrire sur à peu près tous les sujets, eh bien, l'écrit était parfait. Donc, il a commencé avec les œuvres de Goethe, puisqu'il était langue allemande, mais très vite, il a changé ses horizons. Et il a rassemblé une collection de pièces, des documents écrits, hein, mais pas que. On a aussi quelques œuvres d'art, on a des fossiles, on a même des météorites dans la collection. Donc vraiment toutes sortes de choses. Et ce qui est particulier sur cette collection, c'est que c'est véritablement une collection humaniste au sens de la Renaissance, puisqu'elle couvre tous les sujets sur lesquels on peut écrire, hein. On a aussi bien de la littérature, de la poésie, mais aussi de la musique, des sciences, du droit, de l'histoire, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On a des textes en à peu près 120 langues. Donc, on couvre tous les continents avec cette collection et puis toutes les périodes aussi. C'est-à-dire que quand on visite l'exposition permanente, on fait un voyage à travers 5000 ans d'histoire de l'humanité en commençant par les tablettes mésopotamiennes.
Juste
Donc,
ciel.
pardon?
J'ai dit juste ciel 5000 ans.
Ouais, c'est énorme. Donc voilà, on commence aux origines de l'écriture, à 3000 ans avant Jésus-Christ. On passe par les papyrus égyptiens. On a dans toutes les éditions princeps des auteurs grecs. On va avoir des papyri parmi les plus anciens de textes bibliques. Par exemple, dans la collection, il y a le plus ancien évangile de Saint Jean qui soit connu au monde, qui date de 200. Qui est aussi le plus ancien codex, le plus ancien livre relié. On a bien sûr une Bible de Gutenberg, tout un tas de textes médiévaux, des textes aussi orientaux. On a par exemple la première édition du Coran. Voilà, ce genre de choses. Et puis on continue comme ça avec Shakespeare, avec les philosophes des justement, les romantiques du 19e et bah, jusqu'aux auteurs contemporains finalement. Donc c'est un merveilleux voyage à faire hein, quand on visite la collection permanente. Et puis et ben, du coup avec une telle collection, on peut se permettre aussi des jolies expositions temporaires sur des sujets vraiment extrêmement variés. Donc voilà.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que le registre Mémoire du monde de l'UNESCO?
Eh bien voilà, justement, cette collection, elle est tellement parlante pour tout le monde, finalement. Elle a ce côté universel qui est le principe fondateur, hein, vraiment sur lequel s'est appuyé Martin Bonner pour la construire. C'est le principe qu'avait développé Goethe, qui est celui de Weltliteratur, c'est-à-dire la littérature mondiale, la littérature universelle. Donc des textes qui n'ont pas de frontières, finalement, ni temporelles, ni géographiques. Qu'on va pouvoir lire d'un bout à l'autre du monde et des textes très anciens qu'on continue à lire encore aujourd'hui. Donc, c'est ce côté vraiment universel qui fait qu'effectivement, en 2015, l'UNESCO a accordé à la collection Martin Bonner le titre de Mémoire du monde. Donc, c'est voilà, quelque chose d'assez prestigieux. C'est une belle reconnaissance pour montrer l'importance qu'ont ces textes, finalement. Et ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que la Fondation agit aussi pour préserver ce patrimoine, parce que c'est vraiment un patrimoine fondamental à garder, tous ces textes. Et ben, parfois, ils sont conservés dans des pays qui malheureusement sont en guerre ou voilà, où ils se trouvent menacés. On l'a vu encore dernièrement. Hein. Et la Fondation Bonner est aussi sur cette liste de l'UNESCO pour pouvoir accueillir en fait, des documents précieux qu'on ne veut pas perdre pour pouvoir les protéger pendant le temps que la situation est trop dangereuse pour ce patrimoine.
C'est assez original. Moi, je ne connaissais pas du tout ce concept Mémoire du monde, mais il y a vraiment quand même quelque chose qui, comme tu dis, c'est de la conservation. Tu parles de conservation, tu parles aussi d'œuvres. On a l'impression de se retrouver dans le domaine de l'art et pas dans le domaine simplement de l'écrit.
Ah, on n'est pas loin des fois avec certains documents. Tu sais, quand on regarde certains livres, je sais pas si on pensait aux enluminures ou aux reliures, des fois, on a des livres d'artistes d'ailleurs. Dans les derniers dons qu'on a reçus il y a quelques années maintenant, on a reçu une centaine de livres d'artistes de Michel Butor qui habitait tout à côté, à Lucinge, en Haute-Savoie, et qui était un grand ami de la Fondation Martin Bonnemère. Et avant de décéder, il a offert une centaine de ses livres d'artistes à la Fondation. Donc la frontière, elle est vraiment très, très ténue, souvent.
C'est rigolo parce que je suis devant la photo du bâtiment. C'est un bâtiment qui a été fait par l'architecte Botta et il donne toujours sur le lac. Et on a l'impression vraiment qu'on est toujours dans ce cadre très vert, très naturel, avec un peu comme le Chablunsvern, un certain nombre de messages qui passent à peine on rentre sur l'espace, avant même de rentrer à l'intérieur.
Exactement. Alors, c'est un espace qui est... Alors déjà, effectivement, la fondation est située à Cologny, qui est une commune du canton de Genève, qui est une des communes qui a probablement une des plus jolies vues sur le canton, puisqu'on est en fait juste en face du quartier des organisations internationales, mais sur la rive gauche. Donc, on a la vue sur le lac, sur Genève et sur les organisations depuis Cologny. En plus, on est en hauteur, donc vraiment on surplombe, à quelques mètres de la Villa Diodati où a été rédigé Frankenstein. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et puis, alors, quand on arrive sur le site, eh bien, il y a plusieurs... plusieurs étapes, je dirais. C'est-à-dire que Martin Bonnemère, en fait, il est venu s'installer à Cologny au milieu du XXe siècle. Il est arrivé à Genève parce qu'il travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge, qui a été fondé donc à Genève en 1863, et dont le siège est toujours là, d'ailleurs, juste en face de Cologny, sur la rive droite. Il est devenu le vice-président, en fait, de la Croix-Rouge en 1946, et c'est pour ça qu'il s'est installé à Genève. Donc, il a acheté ce domaine à Cologny, où il a fait construire ses deux pavillons néoclassiques, qui sont encore visibles aujourd'hui, où se trouve l'administration de la fondation. Et voilà, et à l'époque, il avait toujours eu l'idée de rendre sa collection accessible aux chercheurs et au public, mais il faut reconnaître que les conditions n'étaient pas non plus les plus faciles d'accès à l'époque. Et le musée a été construit bien après sa mort, puisqu'il est décédé en 1971, quelques mois après avoir créé cette fondation pour présenter sa collection. Et le musée, lui, a été décidé à la fin des années 90 pour être ouvert en 2003. Donc, ça a été un énorme chantier, bien évidemment. Et c'est un musée qui a été conçu donc, par l'architecte tessinois Mario Botta et qui a d'ailleurs travaillé à Chambéry aussi, puisque tu parlais de Chambéry tout à l'heure. L'espace Malraux, voilà, c'est lui aussi. Qui est assez facilement reconnaissable dans son style. Il y a toujours des rayures grises et claires jaunes. Parle comme ça. Donc, c'est en général, quand on voit un bâtiment de Mario Botta, on le reconnaît assez facilement. Et donc, là, ce musée, il a créé une exposition en sous-sol. En fait, il a créé un écrin véritablement pour cette collection, ce trésor. Donc, c'est tout en sous-sol, ce qui permet d'avoir des conditions idéales, absolument contrôlées pour tous ces documents qui sont extrêmement fragiles. Et comme on a tous les supports de l'écriture possibles aussi dans cette collection. On a de l'argile pour les tablettes, j'ai parlé du papyrus, on a du parchemin, on a différentes sortes de papier, on a du jade, on a même une lettre écrite sur feuille d'or, enfin, vraiment toutes sortes de supports. Il faut avoir les meilleures conditions pour tous ces supports d'écrit. Donc c'est vrai qu'être en sous-sol, ça permet de contrôler la luminosité. C'est quand on pénètre dans l'exposition, petit temps d'adaptation parce qu'on est dans le noir en fait, c'est vraiment assez sombre. Et puis il y a juste des îlots de lumière créés par des LED pour éclairer les œuvres. Et c'est pareil, c'est contrôlé, il y a des détecteurs de mouvement, enfin, on fait en sorte que les livres reçoivent vraiment le moins possible de lumière que quand c'est nécessaire, quand il y a quelqu'un pour les observer, justement pour les protéger au maximum. Ça permet aussi de contrôler la température parce que c'est pareil, il faut trouver la température qui correspond le mieux à tout le monde, donc on est souvent aux alentours de 19 degrés. Donc c'est un musée parfait pour venir en temps de canicule, par exemple, pour se rafraîchir, on y vient en général, mais aussi pour se mettre à l'abri l'hiver. Donc voilà, c'est un musée tout en sous-sol. Et puis là, on a inauguré à l'automne une nouvelle partie, parce qu'on a fait un agrandissement pour permettre de mieux accueillir à la fois les chercheurs avec des salles de lecture plus grande, plus confortable, et puis une vraie salle de médiation aussi pour les scolaires, parce que c'est un public qu'on accueille aussi souvent. Voilà.
Et puis aussi des stages pour apprendre à écrire. Alors j'exagère un peu dans la
Oui,
présentation, c'est pas pour apprendre à écrire,
effectivement, il y a
mais
des
je trouve
ateliers de
ça.
calligraphie qui sont organisés. En fait, il y a tout un tas d'animations, hein, qui sont liées à l'écrit comme ça. Donc, effectivement, il y a ces ateliers de calligraphie qui sont mis en place. Bon, on a aussi, on avait il y a quelques temps un cycle d'études des textes japonais, le dit du Genji, par exemple. Des choses comme ça, il y a des conférences innombrables, enfin, il y a tout un tas d'animations aussi pour les journées des musées, journées du patrimoine, etc. Donc, non, ça bouge beaucoup, faut pas hésiter à aller visiter soit le site, soit la page Facebook, et il y a toujours des animations très intéressantes pour les grands comme pour les petits.
J'aime bien aussi un texte qui est cité. Il est important de conserver ce savoir-faire, non pas uniquement sous forme de data, mais aussi dans la mémoire de nos mains. Je ne savais pas que les mains avaient une mémoire.
Ah si, je pense que tu peux parler avec n'importe quel artisan, les mains ont une mémoire, bien sûr.
Les mains ont une
Le
mémoire.
geste, mais oui, le fait d'exercer un geste, ça s'imprime en toi finalement. Donc oui, de le faire par soi-même, c'est concret. Quand on fait qu'observer, finalement, on a une distance, on est passif, on est plus dans l'abstrait. Alors que quand on est actif, ben, on se rappelle vraiment des choses en général.
Oui, surtout que nous, enfin, je vais faire le petit jeune ado pubère, nous, on a appris la calligraphie, on écrivait comme ça, avec le
Oui.
plumier, avec le buvard, et on a l'impression, quand je vois la présentation, je suis sur le site, et j'ai l'impression quand même qu'on réapprend des choses qu'on avait déjà apprises il y a longtemps, mais qui ont peut-être été, non pas abandonnées, mais mises de côté par rapport à l'évolution de l'informatique.
Ah oui, bon, ça, on n'apprend plus, hein, de toute façon. Moi, je sais, voilà, quand j'ai appris, alors, j'étais pas avec la plume et le buvard, si j'avais encore un buvard quand
Je te
j'allais, on
remercie,
était
c'est
avec,
gentil. C'est gentil
c'était un
d'insister sur
stylo
le fait que tu
plume.
n'avais pas utilisé la plume, mais je te remercie. Et j'en criais.
Non,
C'est.
mais voilà, j'ai appris à écrire, c'était obligatoire, on avait un stylo plume. Mon fils, lui, là, c'était stylo bille obligatoire et même plutôt les frictions, hein, qui peuvent s'effacer. Et franchement, bon, on n'écrit pas du tout de la même manière avec un stylo comme ça. Donc,
Ah, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait.
voilà.
On va en finir parce que évidemment on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais ça c'est pas grave. Peut-être qu'on aura le plaisir, qui sait. Si ça continue, on va se donner des rendez-vous jusqu'en 2024. Hein, on parlera des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 et tout. Tu parlais du fait que la fondation n'est pas n'importe où. Est-ce que c'est un choix d'avoir concentré toutes ces structures d'envergure nationale, internationale et même planétaire dans un quartier tout proche? Tu disais que la fondation était à côté du CHCR, c'est ça?
Alors, il y a le CICR ou le
CICR, pardon, oui.
HCR.
Oui. Non,
J'arrive.
est-ce que tout est concentré dans un même quartier?
Les acronymes, on en a pas mal à la jeunesse.
Oh,
Alors,
j'ai vu qu'il y
oui.
avait, sauf erreur, 400 organisations internationales dénombrées au niveau de Genève et de la Suisse. Donc, j'ai même.
Il y en a énormément. Alors,
Voilà.
en fait, sur Genève, on a 84 agences dépendantes de l'ONU. Et bien sûr, le siège européen de l'ONU. Et puis ensuite, on a à peu près 750 organisations non gouvernementales qui sont répertoriées sur Genève. C'est un chiffre qui varie tout le temps, hein, parce qu'il y en a des très grandes, très connues, comme Médecins sans frontières, par exemple. Mais on en a des toutes petites où il y a peut-être deux personnes qui travaillent dedans. Et là, c'est beaucoup plus fluctuant, bien évidemment, surtout en ce moment, où les fonds ont tendance à manquer un peu. Mais oui, c'est une activité extrêmement importante pour Genève. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Comment ça se fait que c'est Genève qui s'est retrouvée à accueillir toutes ces organisations? Je pense que c'est un concours un petit peu de circonstances. Finalement, il y a plusieurs choses qui se sont cumulées au fil du temps. Et Genève a été une ville qui a accueilli des étrangers déjà au Moyen Âge. Hein. On avait des grandes foires internationales. C'est vrai qu'en France, on a tendance à se limiter quand on apprend le Moyen Âge aux foires de Champagne. En fait, il y en a eu d'autres. Et il y en a, entre autres, au 14e, 15e siècle, les grandes foires européennes, c'était à Genève, parce que la position géographique faisait que c'était vraiment extrêmement pratique de se rendre là. Donc, c'était la première immigration avec les banquiers italiens. C'est la naissance de la banque à Genève à ce moment-là. Ensuite, on a eu la réforme qui a joué un rôle extrêmement important au 16e siècle, puisque Pareil, on a eu énormément d'étrangers qui ont afflué à ce moment-là grâce à Calvin, qui voulait que Genève se transforme en cité de refuge pour tous les protestants qui étaient persécutés en Europe. Et du coup, on va avoir à la fois des intellectuels qui vont venir à Genève, qui vont se former pour devenir pasteurs, enseignants, mais on va avoir aussi beaucoup d'artisans qui vont amener des nouveaux savoir-faire, nouvelles techniques. C'est grâce à eux, entre autres, qu'on a la naissance de l'horlogerie, le développement de l'horlogerie à Genève. Donc voilà, le cosmopolitisme arrive de plus en plus à ce moment-là. Et la réforme, elle a aussi un impact extrêmement important, même dans les siècles suivants. Et je pense en particulier au 19e siècle, où on va avoir un renouveau de la foi chrétienne, protestante à ce moment-là, et on va vraiment revenir à des idées de charité extrêmement présentes dans toutes les sociétés, les familles patriciennes de Genève. Et c'est sans doute pour ça que la Croix-Rouge va se retrouver fondée ici. Parce que la Croix-Rouge, c'est ça, c'est l'idée d'un Genevois protestant investi dans ce genre d'activité, qui est Henri Dunant, qui va se retrouver à Solferino, cette bataille absolument terrible, qui est considérée comme la plus sanglante du 19e siècle. Hein, il y a eu plus de 40 000 victimes. C'était absolument abominable. Alors, il n'était pas seul sur place du tout. Il y a eu énormément de gens qui sont venus apporter leur aide. Mais lui, ça l'a vraiment marqué. Puis, c'est lui qui avait quelque chose à faire, en fait. Et donc, il va publier un livre qui s'appelle Souvenirs de Solferino, qui est publié en 1862, et dans lequel, d'abord, il joue un petit peu sur la corde sensible. Décrivant ce qu'il a vu à Solferino. Et puis ensuite, eh bien, il expose des idées pour améliorer les choses. Et entre autres, cette idée d'organiser des secours pendant qu'on est en paix pour pouvoir agir efficacement quand une guerre survient. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait encore régulièrement des choses absolument terribles, comme quand un soldat était blessé sur le champ de bataille, la plupart du temps, il n'y avait pas de secours organisé, il était simplement laissé agoniser sur le champ de bataille. Donc ça, c'est tout ce genre d'idée que la naissance de la Croix-Rouge va vraiment transformer. Et c'est pas tout à fait anodin que ça se passe à Genève, parce qu'effectivement, c'est vraiment une idée protestante très, très présente en fait dans ces familles protestantes du 19e siècle. Et donc ces idées, elles vont trouver écho. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec cinq Genevois qui fondent la Croix-Rouge en 1863, donc nommé Henri Dunant, mais il y a aussi Gustave Moynier qui était juriste, et c'est celui qui va rédiger les premières conventions de Genève qui sont signées en 1864 dans l'hôtel de ville de Genève, et qui vont apporter des droits justement pour les prisonniers de guerre, pour les soldats blessés, etc. Donc c'est un premier pas d'humanité apporté dans ces temps de guerre. On a aussi le général Guillaume-Henri Dufour, qui va être un petit peu le diplomate de la Croix-Rouge. C'est lui qui va permettre de réunir toutes les personnalités importantes européennes à Genève pour s'engager dans ce projet. Et puis deux médecins, Louis Appia et Théodore Monnoir. Et donc, voilà, on a cette première organisation humanitaire qui est fondée dans ce cadre-là. Faut pas oublier, je l'avais déjà mentionné, je crois, la dernière fois, que Genève est devenue un canton suisse en 1815, à l'issue des guerres napoléoniennes. Donc, on a aussi la neutralité suisse qui est importante. D'ailleurs, c'est un Genevois, Pictet de Rochemont, qui va insister pour qu'on l'inscrive dans le traité de Vienne, que la Suisse est neutre. Donc ça compte aussi. Je pense que la position géographique est aussi importante. Et puis, il y a un autre événement aussi qui va influencer, qui va marquer la tradition de paix vraiment liée à Genève, c'est le tribunal de l'Alabama. Ça, c'est un peu moins connu
Ah oui.
dans les régions francophones. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle.
Non.
Non. Ça, c'est en 1872, en fait. C'est le premier tribunal d'arbitrage qui a eu lieu. En fait, on était parti pour avoir un conflit entre les États-Unis nouvellement créés et la Grande-Bretagne, qui avait vendu des soi-disant navires marchands aux États sécessionnistes du Sud, mais en fait, ces navires marchands s'arrêtaient dans les Caraïbes, étaient équipés de canons, etc. Et donc, ont attaqué les bateaux des États-Unis, nouvellement créés, qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent. Enfin, voilà, on aurait pu vraiment avoir de nouveau une guerre à ce moment-là. Et fort heureusement, ils ont décidé d'essayer la médiation, de s'asseoir autour d'une table et puis de trouver une solution à ce problème. Et ça a donné donc ce tribunal qui va être appelé tribunal de l'Alabama. Alors, ce n'est pas à l'État hein, qu'on fait référence,
Ben,
c'était
c'est
un
ce que je
bateau.
pensais.
Non, en fait, l'Alabama, c'était un de ces bateaux pirates, finalement, qui a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a vraiment cristallisé la crise. Donc voilà, ce tribunal de l'Alabama, ben, il va se dérouler à Genève, parce qu'on avait besoin d'un endroit neutre pour faire cette médiation internationale, la première de l'histoire. Et c'est Genève qui est choisie, donc entre juillet et septembre 1872. Et on va avoir la première fois dans l'histoire de l'humanité, un traité qui va empêcher une guerre finalement. On signe un traité de paix avant de faire la guerre. C'est le premier acte de médiation, le premier arbitrage international. Donc, dans l'histoire de l'humanité, c'est important. Et ça s'est passé à Genève. Donc, voilà, tout ça s'est cumulé. Et quand, après la Première Guerre mondiale, on a décidé de créer la Société des Nations, la SDN, Genève s'est imposé comme un choix naturel. Bon, le président Wilson a aussi bien poussé dans ce sens-là. Donc la SDN s'installe à Genève. Et même si ça a été un échec, hein, puisque on a eu la Deuxième Guerre mondiale et puis un peu de problèmes avant, et qu'elle est dissoute en 1945, eh bien, quand elle est remplacée par l'ONU, d'emblée, dans le Palais des Nations qui avait été créé pour elle, eh bien, on va installer le siège européen de l'ONU à Genève. Et voilà, ça continue finalement comme ça. Et puis, eh bien, une fois qu'on a le siège européen, après, il y a plein d'autres organisations qui viennent, hein. Il y en a une bonne vingtaine qui ont leur siège principal à Genève aujourd'hui. Donc, c'est un lieu important pour tout ce qui est lié au maintien de la paix, aux droits de l'homme. C'est vraiment la vocation de Genève, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Genève.
Est-ce que c'est le fait de cette neutralité de la Suisse qui explique que tout soit installé là-bas? Parce qu'on aurait pu penser que ça pouvait s'installer en Angleterre, ça pouvait s'installer comme dire en France, puisque c'était deux
Ça
pays
aurait
assez.
pu, mais je pense que là, oui, la neutralité était absolument essentielle. Et puis, c'est vrai que la Suisse, finalement, s'impose depuis longtemps comme médiatrice dans toutes sortes de conflits, justement, parce qu'elle est neutre. On sait qu'elle ne prendra pas parti, puis que les Suisses, on l'a abordé la dernière fois, ont quand même le sens du compromis. Ils l'ont montré par leur histoire, finalement. Ils sont construits sur le compromis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'identité suisse et qui aide aussi à cette médiation internationale beaucoup. Ça paraissait naturel, finalement, que la Suisse soit cette médiatrice.
Ouais, enfin, je me suis quand même interrogé parce que bon, c'est vrai qu'il faut penser par exemple au CIO qui est à Lausanne, mais je me suis dit que c'était quand même sacrément concentré à Genève. Donc, est-ce que c'est la Suisse ou est-ce que c'est spécifiquement au canton de Genève? C'est la question que je me suis posée. Parce que vraiment, tout.
Alors oui, c'est Genève, c'est vrai que
J'ai l'impression que beaucoup de choses, enfin 90% des choses, 95% sont concentrées sur Genève.
c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que Genève a eu cette destinée particulière. Alors, des fois, quand je dis ça, on me dit, ah oui, mais bon, parce que t'es pas objective.
Tu n'es pas
Peut-être.
objective, hein, si je peux me permettre. Je le dis franchement.
Peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, objectivement, quand même, Genève a une destinée particulière, vraiment. Et c'est difficile de dire, ah, c'est parce que à cause de ça. C'est pas un événement, c'est vraiment une construction comme ça au fil des siècles. Mais oui, c'est une ville qui s'est construit un destin particulier. Voilà. C'est ici.
Genève par rapport à la Suisse.
Oui.
Quand on dit Suisse, on dit Genève, on dit parfois Lausanne, on dit moins Zurich. Est-ce que c'est c'est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire il y a une capitale fédérale et une capitale économique, New York et Washington, mais est-ce qu'on peut considérer quand même que Genève, c'est une ville qui bouillonne et qui est vraiment le porte-flambeau de la Suisse?
À porte-flambeau, je suis pas sûre que tous les Suisses seraient d'accord. Ça
Ah
dépend.
non, mais ah non, je suis totalement d'accord. Non, non. Mais est-ce que c'est quand même pas la ville entre je vais faire de l'humour, je dirais, est-ce que c'est pas la ville la plus connue en Suisse?
Alors, je dirais que ça dépend dans quel domaine on évolue, en fait. Parce que Zurich est quand même une ville importante. C'est la plus grande ville de Suisse. C'est vraiment la capitale économique. Et pour plein de milieux économiques, et en particulier aussi pour tout ce qui est lié à la finance ou l'assurance, c'est quand même une ville importante. Après, c'est sûr que si on est plutôt dans le domaine de l'humanitaire et du multilatéralisme, de la coopération internationale, etc., effectivement, c'est plus Genève qui va être mis en avant. Mais moi, je sais que c'est pas forcément ce que vont dire beaucoup de Suisses finalement, parce que on se rend compte, et on l'a très bien vu l'année dernière, que en particulier les Suisses alémaniques connaissent assez mal Genève en fait. Ils aiment beaucoup se moquer de Genève souvent. Ils parlent de nos genevoiseries et Genferei, parce qu'il y a aussi des choses assez amusantes dans la politique genevoise, en particulier qui se passe qu'à Genève. Voilà, ils connaissent ça en général beaucoup, et ils se moquent un peu aussi du côté un peu trop latin de Genève pour eux, parce que c'est presque une ville française pour eux, en fait. Dans un sens, elle est un peu trop. Voilà, un peu. Alors, regarde un peu trop de ce côté-là, de leur point de vue. Et finalement, bah, ils la méconnaissent beaucoup. Et bah, ça, c'est un des bons côtés de cette crise, qu'il y en a quand même, c'est que finalement, ça a beaucoup forcé les Suisses à voyager dans leur propre pays. Il y en a beaucoup qui ont redécouvert Genève. Et ils sont tous surpris, en fait, quand ils font une visite de Genève, en général, parce que bah, ils n'imaginent pas toute la richesse qu'il y a ici et tout ce qui s'est passé, en fait. Donc, oui, voilà.
Ouais, parce que par exemple, bon, je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a un parking français pour l'aéroport de Genève-Cointrin. Voilà, il y a un parking spécifique français qui évite de passer la frontière parce que
Ah, mais il y a un
sinon,
secteur France à
ouais, y a,
l'aéroport,
voilà.
exactement. En
Et
fait, on
c'est
n'est pas obligé de passer en Suisse pour
et
être à l'aéroport de Genève. L'aéroport est construit sur la frontière, hein, véritablement. Tout comme le CERN, d'ailleurs, hein, c'est pareil, on est pile sur la frontière.
Ah mais
Donc,
complètement, oui.
il y a une partie du CERN qui est en Suisse, mais l'autre partie qui est en France. Et ben, ouais, le CERN, d'ailleurs, c'est presque un petit État à lui tout seul, finalement. C'est un microcosme particulier,
Est-ce que tu peux juste
le
rappeler ce que
CERN.
c'est que le CERN, s'il te plaît?
Alors, le CERN, c'est le Centre européen de la recherche nucléaire. Et c'est au CERN que se trouve, entre autres, le LHC, qui signifie le Large Hadron Collider, c'est-à-dire le collisionneur, on dit en français, je crois, de particules. Voilà, c'est un immense tube, hein, souterrain, dans lequel on projette des particules, et on les fait se rentrer dedans, puis on regarde ce qui se passe. Et entre autres, eh bien, ça a permis d'observer pour la première fois une particule que les physiciens cherchaient depuis très longtemps, qui s'appelle le boson de Higgs, par exemple, voilà, dans ce LHC.
Qu'est-ce qu'il me dit? De quoi
Et
est-ce qu'il me
puis, bah,
parle?
c'est aussi au CERN qu'est né le World Wide Web, par exemple. Donc, c'est pas, voilà, il y a des choses un petit peu
Je croyais que c'était
intéressantes
aux
qui se passent par là-bas.
États-Unis. Ah, c'est original
Et
ça.
ouais, non, le World Wide Web, il est né au CERN, à Genève.
D'accord, ok. Bon, bah écoute. Hein.
Parmi tant d'autres choses.
Oh non mais stop, on arrête. Ça suffit.
Voilà.
Comme vous avez pu voir, hein, comme d'habitude, les sujets, on n'a toujours pas parlé de l'expo là au-dessus et tout. Je sais plus, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, je veux dire. Bon, bah.
Alors, c'est pas une. Faut que tu arrêtes de dire expo là-haut-dessus, parce que là-haut-dessus, c'était un livre, en fait, exposé parmi plein d'autres. Donc, l'exposition, elle s'appelait Guerre et paix.
Exact, oui, tout à
Voilà.
fait. Bon, bah, il faudra en reparler, hein, parce que bon, là, quand même, je vais pas non plus accaparer tout ton temps, hein, parce que là, franchement, c'est. Bon, eh bien, écoute, merci pour toutes ces infos. Alors,
De rien.
comme d'habitude, même question traditionnelle, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver?
Alors, bah, deux options. Sur Internet, il y a deux sites. Donc, le premier, c'est guide au pluriel-genève.ch. Et là, c'est un site que je partage avec d'autres collègues guides du patrimoine. Et bah, vous trouverez ma page, hein, simplement, Émilie Bifardon. Et puis, pour d'autres types de visites, parce que je ne propose pas les mêmes sur les deux, il y a aussi Genève Escapade. Donc, là, le site, c'est genève-escapade.ch. Et bah, voilà, tout un tas de visites. Et aussi un programme pour les individuels. Et entre autres, ben là, on vient de lancer notre programme de printemps qui commence ce dimanche. Donc, tout un tas de visites, que ce soit pour les familles, pour les adultes en semaine, le lundi après-midi, les familles, c'est le dimanche matin. Et puis, on a aussi des visites after work maintenant le jeudi soir, qui, dès que ce sera possible, se termineront par une verrée, comme on dit ici, pour partager un moment convivial. Donc, voilà, tout un programme.
Allez, dernière question, curiosité. Tu n'es pas installé à Genève. Tu es à combien de kilomètres de Genève? Tu passes ton temps à faire un aller-retour, hein? Tu
Oui,
pars à
oh, je
5h
suis.
du matin, tu reviens à 23h et
Oh
puis.
non, 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 je suis à 10 minutes de la frontière. Je ne mets pas forcément plus de temps que quelqu'un qui habite à l'autre bout du canton, en fait. Donc, non, non, je suis tout près de la frontière.
D'accord. Bah, je te remercie.
De rien. Bonne journée.